Bonsoir et bienvenue dans Onde Noire, l'émission polar la plus rock de la bande FM. Et qu'est-ce qu'on va t'y souhaiter à nos auditeurs, Jacques? De bons livres?
De bonnes lectures, de bons amis.
Voilà.
Que l'année 2012 leur soit douce. À tous.
L'année 2012, alors, on va dire. Voilà. Bon, et puis on va enchaîner quand même. C'est-à-dire qu'on va partir directement sur un coup de cœur et puis ensuite nous aurons nos chroniqueurs favoris pour chronique livre noir et chronique polar. BD, suis-je bête. Donc Jacques?
Eh bien, le premier roman de cette nouvelle année dans Onde Noire sera un roman de Don Winslow qui s'appelle Satori, qui est paru aux éditions Jean-Claude Lattès et qui est traduit par Richard Cunningham. Don Winslow, c'est un habitué de nos ondes noires, ceux qui le sont aussi, vous en êtes certainement rendu compte. Et il revient ce soir dans un nouveau registre, le roman d'espionnage. C'est vrai que dans La griffe du chien, qui est son masterpiece, il mettait déjà en scène la CIA, la NSA, la DEA, mais il restait plutôt dans sa zone de prédilection, la Californie et la frontière avec le Mexique, et dans ses thèmes favoris, les trafics de drogue et les compromissions des services secrets. Ici, cela change complètement. Cela se passe en Asie, dans les années 50. Il y a toujours la CIA, certes, et d'autres obscures officines secrètes. Le roman raconte l'histoire de Nikolai L., un tueur à la solde des Américains qui va être chargé d'assassiner un espion russe à Pékin. Ce roman, c'est en fait le préquel, comme on dit désormais, du...
Ça va falloir quand même que tu expliques qu'est-ce que c'est qu'un préquel.
Le préquel, c'est le contraire de séquel, en fait. Donc, c'est-à-dire, c'est le roman qui précède le célèbre roman de Trévagnan qui s'appelait Shibumi, qui s'appelle toujours d'ailleurs Shibumi.
Oui.
C'est Trévagnan lui non, puisqu'il est mort en 2005.
Et qui est toujours disponible, ce roman.
Voilà, et on en avait parlé d'ailleurs à l'époque de ce roman Shibumi, qui était un magnifique roman. Chez Gallmeister, voilà. Et donc là, Don Winslow a été un peu chargé par la famille et par des amis de Trévagnan de faire un peu le début de la vie de Nicolas L. Et il s'en charge fort bien. Dans Shibumi, Nikolai a la cinquantaine. Dans celui-là, il a tout juste 23 ans. En fait, c'est sa première mission. Pour resituer un peu les choses, on est en pleine guerre de Corée. Les Français sont toujours au Vietnam, que l'on appelle Indochine, encore un petit peu. Les Américains commencent à se mettre les deux pieds dans le pétrin. Tout le roman se déroule entre le Japon, la Chine et l'Indochine, avec toutes les différentes fractions qui luttent les unes contre les autres, au milieu d'une guerre coloniale ou de libération, selon le côté dans lequel on se place. Mais Nikolai, lui, il est de mère russe blanche, d'un père allemand nazi. Il est né à Shanghai, en Chine, et donc il a été élevé au Japon par un maître de go. Donc finalement, dans ces contrées-là, il se sent plutôt à l'aise. Alors on est, je disais tout à l'heure, dans le pur roman d'espionnage, à la James Bond en fait. Il y a la belle Solange qui va faire office de femme fatale, de Nikolai's girl si on voudrait.
Très très belle méditerranéenne plutôt.
Voilà, oui. Et puis il y a aussi donc les traîtres, les agents doubles. Mais tout comme dans le roman de Trévagnan Shibumi, Winslow il rajoute un petit plus. Ici les méchants ne sont pas monolithiques comme dans les James Bond, le Smersh, le Spectre. Non, il y a toutes les factions de gens détestables, de personnages affreux. Et vicieux, enfin au sens caché, quoi, qui agissent en sous-main. C'est normal, ce sont des espions. Et d'ailleurs, ces personnages détestables, ils sont essentiellement chez les Américains, qui se comportent en civilisateurs et en sauveurs, ignorant de façon que ce soit la moindre bribe des civilisations pourtant millénaires qu'ils piétinent. Mais on trouve aussi des militaires français bornés, pas besoin de
pléonasme.
Voilà.
Pardon.
Des Corses, il y a même des Corses là-bas, prêts à tout pour leur business. C'est pareil, deuxième pléonasme.
Oui, bon.
Et il y a aussi, surtout en fait, qui est présente dans ce roman, c'est toute la mystique de l'Asie. À commencer déjà par le titre, qui, c'est un mot qui veut dire dans le bouddhisme zen, l'éveil à la spiritualité. Alors bien sûr, quand on lit le roman, on se dit qu'il faut quand même avoir beaucoup de spiritualité pour atteindre donc un état supérieur en tuant trois des assaillants qui les assaillent avec un vieux Paris Match roulé serré. Mais pourtant, Nikolai le fait et le fait très bien.
C'est pour les meurtres ou pour Paris Match que tu dis ça?
Ah ben ça, c'est un peu pour tout le monde. Chacun voit son éveil à la spiritualité.
Son satori à sa porte.
Voilà, exactement. Et donc, en fait, Winslow a réussi vraiment très très bien à nous entraîner dans ce monde à la fois des arts martiaux, de l'espionnage et aussi de la maîtrise de soi. En plus des arts martiaux qui nécessitent une maîtrise de soi, il y a aussi quelque chose qui maintient son emprise sur le livre presque, c'est le jeu de Go. Nicolas est un maître de Go, il a été élevé par un maître. Et finalement, le jeu de Go guide toute sa vie, toutes ses actions. Il agit comme s'il posait ses pions sur un Gobang, qui est donc l'échiquier, enfin, ou le damier du Go. Et il est vrai que même à la fin de la lecture, peut-être même avant, on a envie de se familiariser avec ce jeu pour un peu comprendre les petites subtilités que glisse Don Winslow dans ce roman. Alors heureusement, maintenant, grâce à Internet, il y a des tas de sites qui permettent des initiations au jeu de Go, et on a même, on peut même y jouer sur son ordinateur ou sur son smartphone.
Trop geek.
J'ai perdu jusque-là 5 parties, mais bon, je vous tiendrai au courant de mes progrès. Mais ce qui est vraiment réussi, en plus de toute cette l'habilité à raconter ces arts martiaux, ça, c'est que, en fait, Don Winslow s'est vraiment coulé dans les pages et dans les mots et dans les idées de Trévanian pour faire de ce roman Satori un Trévanian. Mais bizarrement, c'est aussi un Winslow.
On retrouve quand même la patte de Don Winslow, la plume de Don Winslow dans ce bouquin.
Pardon. C'est un Trévanian, disais-je, mais c'est aussi vraiment un Winslow. Et en gros, ceux qui n'avaient pas lu comme moi Shibumi avant de lire Satori, n'auront qu'une envie, c'est de se plonger dans Shibumi après avoir lu Satori. Et ceux qui ont déjà lu Shibumi n'auront qu'une envie, c'est de savoir qu'est-ce qui a bien pu arriver à Nicolas Hale avant qu'il soit dans le Pays Basque.
Oui, et parce donc, il y a le Pays Basque aussi, dont on n'a pas trop parlé.
Et donc, disais-je, ils découvriront un peu cette jeunesse de Don Winslow. Donc, je vous conseille de commencer par celui-là, par exemple, puisqu'il vient à peine de sortir.
Mais de continuer quand même par Shibumi.
Et de commencer après par Shibumi. Juste une petite note, Trévanian est aussi connu pour avoir écrit un roman qui s'appelle La Sanction, toujours paru chez Gallmeister, et qui a été mis en scène et au cinéma par l'ami Clint Eastwood.
Voilà, un petit peu de musique.
Donc un morceau de Keith Moon, enfin chanté par Keith Moon, qui, comme vous vous en souvenez peut-être, était le batteur des Who.
Il y a longtemps.
Il était bien meilleur batteur que chanteur. C'est d'ailleurs pour ça, je pense, qu'il ne le faisait pas chanter souvent. Mais bon, il a fait son double album tout seul. Et la chanson vous rappellera certainement quelque chose.
If I find fortune.
Voilà, c'était la voix de Keith Moon. Je pense que tout le monde a reconnu cette chanson. Et donc, sans transition, nous avons le plaisir d'accueillir notre idole des jeunes à nous, c'est-à-dire Jean-Marc Laherrère. Jean-Marc, bonsoir.
Bonsoir, bonne année à tous.
Merci beaucoup, bonne année à vous. Plein de bonnes lectures et plein de belles choses dans cette année et dans toutes celles qui viennent. Voilà, vous allez nous parler d'un livre qui est sorti assez récemment à la Série Noire ce soir. Voilà.
Oui, je ne vais pas vous parler tout de suite de livre 2012. Là, je vais vous parler d'un des derniers, peut-être le dernier livre sorti à la Série Noire en 2011, qui s'appelle Le jour du fléau, et c'est d'un auteur français qui s'appelle Karim Madani. Alors, Karim Madani avait déjà publié, d'après ce que j'ai pu trouver sur le web, mais pas la Série Noire. C'est son premier Série Noire. Il disait qu'il en était très fier, d'ailleurs. Alors, bon, le titre donne un peu la couleur. C'est pas un livre très drôle. On suit un flic qui s'appelle Paco Rivera, qui est le flic à la brigade des mineurs d'une ville imaginaire et qui s'appelle Arquestra. Et ce flic, il est comme beaucoup de flics de polar, il est complètement à la dérive depuis que l'indic dont il était amoureux quand il travaillait dans la répression de la drogue et qui s'appelait Katia a été complètement massacré par des trafiquants colombiens. Donc depuis, on l'a mis un peu en congé. Puis là, il est à la brigade des mineurs et il tient, grâce à un mélange Jack Daniel, Cidre pour la toux. Il tient comme
c'est
ça.
C'est bien
comme
le sirop pour la toux.
Alors, je sais, oui. Avec le Jack Daniel, jamais essayé, moi.
Mais il semble bien que la voix est un peu éraillée, me semble-t-il.
Oui, il faudrait. J'en aurais un peu besoin. Oui, c'est la fatigue, là, de début d'année. Et il voit une possibilité de rédemption quand on lui confie avec sa partenaire l'enquête sur la disparition d'une jeune fille de 16 ans, Pauline, dont les parents n'ont plus de nouvelles. Et bien entendu, comme on est dans un roman très très sombre, il n'y aura pas de rédemption, il y aura juste une descente en enfer qui va continuer dans un monde à la Elroy, de dealers, de camés, de trafiquants, de prédateurs sexuels et de flics pourris, tous plus pourris les uns que les autres. Bon, voilà, c'est pas très rigolo tout ça. Non. Karim Madani revendique explicitement dans le texte des influences comme celle de Sin City, comme les Gotham City, les Batman les plus sombres. Il cite aussi Bat-le-Nant avec. On pense évidemment, parce qu'il est à la Série Noire, parce qu'il est français, parce que son univers fait penser à Antoine Chénas, et en particulier à son personnage de Paul Nazouti dans Versus. C'est
oui, voilà.
Donc on pense à tout ça, c'est pas rigolo, et ça pourrait être écrasant comme référence, puisque quand même il y a déjà beaucoup de monde et de très beau monde qui s'est attaqué à ce genre de personnages et à ce genre d'ambiance, et bien voilà, c'est pas écrasant du tout parce que on n'est pas dans une copie, on n'est pas chez un imitateur qui s'est dit qu'il y avait un filon à exploiter et qu'il allait faire ce que d'autres avaient fait. Au contraire, il a repris tout ça à son compte, il a sa propre langue, il s'approprie les mythes et les clichés. Il a créé cette ville imaginaire qui peut être beaucoup de banlieues en train de devenir chic, puisque c'est une espèce de quartier à la dérive qu'on est en train de nettoyer pour y mettre des Starbucks café, des bars à sushi, et en chaque fois en poussant la crasse et la misère et la violence un peu plus loin. Voilà, cette ville, ça devient la sienne.
C'est un peu une ville, c'est marrant parce qu'on en parlait avant notre avant-dernière émission avec Jérôme Leroy, ces villes qui étaient, il y a quelques années, décrites par les romanciers de science-fiction, des centres-villes pour les hyper friqués et puis les manants aux alentours, quoi.
Voilà, exactement. Et là, c'est ce qui est en train de se passer. Voilà, on est en train de pousser toujours un peu plus loin toute cette misère, mais bon, on la pousse parce qu'on veut, on veut pas la voir. Alors ce livre il est dérangeant et il est attachant à la fois comme le flic, comme ce Paco Rivera qui fait penser aussi bien sûr au Harry Hole, Harry Bosch, à certains flics du Quatuor Los Angeles parce qu'il est dérangeant, parce qu'il est attachant justement. On comprend parce que bien sûr c'est pas quelqu'un c'est quelqu'un qui sait s'arranger avec sa propre morale, qui parfois a envie d'appliquer la loi du talion et l'applique. On finit par comprendre cette espèce de rage qui l'anime parce que voilà, il s'aperçoit que tous ceux qui ont l'argent sont au-dessus, il ne peut pas les toucher, il ne peut rien faire contre eux. Il y a tout un tas de prédateurs, de salopards contre qui il ne peut rien, du moins il ne peut rien légalement. Et il se laisse aller aux envies qu'il peut avoir de devenir une espèce de justicier, mais c'est pas un justicier comme certains Américains nous en ont montré.
Oui, c'est pas l'inspecteur Harry.
Non, c'est pas l'imposteur. Il sait bien qu'il a pas le, qu'il est pas du côté du bien. Il a juste, il a rage et il a envie de se venger. Voilà, c'est de la pure vengeance et ça ne cherche pas à se définir autrement que comme ça. Et il est dérangeant, mais parce qu'on le comprend finalement. On le comprend très très bien dans son envie de nettoyer tout ça, de rendre des coups à ceux qui lui en donnent et puis de venger sa Katia qui finalement essayait de s'en sortir et qui s'est fait massacrer. Donc voilà, c'est un livre très fort qui est bien dans la lignée un peu de cette cette empreinte d'Aurélien Masson à la série noire.
Oui, c'est ce que j'allais dire. C'est on suit quand même Zoulou de Caril Ferré, on suit un certain nombre de livres où on a des flics comme ça à la dérive qui s'en prennent plein la tête et qui rendent coup pour coup aussi.
Exactement. Et puis c'est aussi même la lignée un peu des romans un peu plus politiques comme ceux de Dirolo ou de Jérôme Leroy, où voilà, on montre une ghettoisation, on montre des gens qui n'ont plus aucun espoir, qui donc sombrent de plus en plus. Voilà, c'est pas un livre drôle, mais c'est un livre très puissant, qui a une vraie beauté par moment, et qu'il faut lire peut-être quand tout va bien, quand même un jour de soleil, pas un jour où il pleut et on a le blues.
Bon, bah alors, je dis tout de suite, je sais pas ce que le temps qu'il fait à Toulouse, mais alors nous, il y a aucun problème, là, ils peuvent aller l'acheter demain. C'est le temps est printanier, donc on peut lire ce livre sur la plage en ce moment. Profiter peut-être de nos derniers beaux jours. Non, on va pas sombrer dans ce pessimisme ambiant, mais c'est vrai que on retrouve ça beaucoup dans les romans noirs en ce moment, c'est-à-dire un espèce de monde crépusculaire qui va dans une dérive absolument terrible et on a une réalité qui paraît surréelle, mais qui est en fait très très proche de nous finalement.
Qui est très proche, et d'ailleurs Karim Adani explique dans un interview que j'ai vu que lui, pourquoi il a écrit ça aussi, parce qu'il voit que les quartiers où il a grandi quand il était gamin, qui étaient des quartiers populaires, ils ne sont plus du tout accessibles pour lui maintenant, il n'a quasiment plus le droit d'y aller. C'est faux, on peut toujours s'y promener, mais il serait impossible d'y vivre. Mmh. Et donc ça aussi, c'est cette partie-là de grandes villes qui deviennent de plus en plus chères, de moins en moins populaires et où finalement tous ceux qui ont fait ces villes et qui les ont construites en sont chassés petit à petit. Et pas tellement petit à petit, même assez rapidement là-dedans.
Oui, là en ce moment, presque au Karcher, pourrait-on dire.
Voilà, on pourrait dire ça comme ça.
C'est un petit peu ça. Jean-Marc, merci infiniment. Donc on va rappeler quand même le titre, le nom de l'auteur et la collection, s'il vous plaît.
Alors, Le jour du fléau de Karim Madani, et c'est à la série noire.
Voilà, un premier roman noir apparemment, mais en cherchant bien, je crois qu'on peut trouver d'autres écrits de cet auteur.
Oui, oui, il a écrit d'autres, au moins deux ou trois romans qui ont été publiés dans d'autres maisons, qui étaient déjà des romans plutôt policiers, et c'est son premier en série noire.
Bon, alors, on va le suivre attentivement. Jean-Marc, merci beaucoup.
Merci
à bientôt.
À vous. Bonne continuation et à bientôt.
À bientôt, au revoir.